Eh bien, bonjour à tous. Je suis content que certains d'entre vous ont survécu à la nuit et sont là aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui l'amélioration de la sécurité des tranches de réseau grâce à l'intelligence artificielle, quels sont les défis et les solutions. Donc, je vais parler tout d'abord de la motivation pour la 5G. Pourquoi avons-nous besoin de ces tranches de réseau? Après avoir vu la motivation, je vais parler donc des défis de sécurité dans les tranches de réseau et ensuite je vais parler des opportunités qui sont en face de nous pour l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème et pour appliquer ces techniques. Et bien sûr, il y a des défis que je vais revoir pour ces techniques d'intelligence artificielle et après cela, bien sûr, des conclusions et des remarques à propos de tout cela. Pour commencer, tout d'abord, pourquoi avons-nous besoin de la 5G? Pourquoi avons-nous besoin de ces tranches de réseau, du network slicing? Eh bien, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on utilise actuellement pour la 4G, ça marche assez bien. On l'utilise tous les jours, hein, de manière à de regarder des vidéos sur YouTube, pour utiliser Twitter, pour faire des commentaires sur des conférences, par exemple. Et là, je pense que vous pouvez faire des commentaires, vous aussi. Mais nous sommes des êtres humains. Nous voulons avoir plus de connectivité, nous voulons avoir plus de puissance. Nous voulons connecter tout à l'Internet. Et donc, pour avoir une société connectée, il faut améliorer nos capacités de réseau et là aussi la gestion et l'agilité du réseau et notre agilité lorsqu'on... Et donc, la 5G va nous permettre de faire cela pour arriver à répondre à ces nouveaux défis parce que ça va au-delà de les cas d'utilisation de haut débit, donc effectivement dans l'URLLC pour la latence de basse où c'est vraiment très intéressant et le 5G va nous permettre de répondre à ces nouveaux cas d'usage. Et ces nouveaux cas d'usage pose de nouvelles interactions entre les nouveaux parties prenantes, les nouvelles entités. Et tout cela sera complètement virtualisé et ce sera un gros avantage pour les communications et pour les fournisseurs de services, les ISP, de manière à avoir une capacité très importante lors de leur déploiement de réseau. Et les algorithmes nous on va s'orienter plus vers les services et les comportements pourraient être changés en partie sur la base donc des cas d'usage. Donc effectivement, c'est très intéressant. De manière à répondre bien à ces problèmes, eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a une complexité plus importante. Et c'est là que le slicing, c'est-à-dire le découpage en tranches de réseau, intervient. Et pourquoi? Eh bien, parce que donc on a donc des méthodes de partage qui ne sont pas suffisantes ou optimales. Et donc, il y a 50 ans, lorsqu'on voulait déployer un nouveau service, on devait acheter un équipement, on devait l'installer, le configurer. Et si on n'avait aucune erreur, on devait faire des tests et ensuite on le mettait en service. Et vous savez que ça prend beaucoup de temps pour arriver sur le marché. Bien sûr, il y a des erreurs humaines qui peuvent arriver. Et donc, ce n'est pas désirable d'avoir un seul réseau physique pour tous les services, bien sûr. Donc, le découpage en tranches du réseau Network Slicing va nous épée. C'est un ensemble de connectés. Pour cette présentation, je vais l'approche MDMM qui dit que c'est un ensemble connecté de chaînes de fonctions du réseau qui crée logiquement un réseau virtuel dédié qui satisfait les besoins spécifiques d'un cas d'usage. Et à partir de cette définition, on peut explorer différentes choses. Par exemple, les caractéristiques clés qui sont vraiment très importantes, qui sont réalisées par un algorithme. Donc, différentes fonctions. Le micro ne marche plus. Hello. Alors, donc composabilité, l'entité récursive est très importante. Et donc, en tant que contrôleur, je peux, en tant que demander un client pour des ressources et ensuite je peux agir en tant qu'un serveur et présenter les différentes ressources à un autre niveau plus haut, à un contrôleur de niveau supérieur. Et même si j'ai une infrastructure partagée, je peux réaliser des opérations isolées. Je peux aussi fournir un service complet pour des cas d'utilisation concrets. Et ceci est fourni pour des buts d'affaires sur demande pour certaines entreprises. Et je dois aussi avoir des indicateurs de performance clés pour effectivement surveiller que les accords entre les clients et les communications de télécommunications sont vraiment respectés. Donc voici l'orchestration, la gestion. Donc on a la gestion des défauts. Je peux réaliser un cycle de gestion pour mon réseau virtuel en ce qui concerne les ressources. Donc les ressources sont distribuées partout dans mon réseau. Elles appartiendront à différents domaines, différents administrateurs. C'est très intéressant. L'isolement, l'isolation, comment je vais paramétrer cette isolation? Je peux avoir une intra ou une inter-isolation. La qualité du service maintenant, ça doit être de end-to-end, avoir des paramètres communs aussi pour toutes les entités qui vont l'utiliser, qui vont appartenir à mon service. Et en ce qui concerne la sécurité, c'est bien sûr la nature du trafic qui est importante. Ce trafic doit être collecté et ce massif est très important. Il va très vite dans le temps, il est très divers. Il y a différents types de protocoles qui sont utilisés, différents types de comportements qui existent. Maintenant, si je m'intéresse plus en profondeur aux défis de sécurité pour la découpe virtuelle en tranches de réseau, voici la vision donc de la tranche de réseau, l'architecture de tranche de réseau et donc les différentes couches de ressources. Donc il y a des couches d'instances et tous mes niveaux sont instanciés. Et le niveau de service est où le client va sentir qu'effectivement que la réalisation des communications des services sont demandées. Et donc, en ce qui concerne la gestion donc de ce niveau, je dois contrôler ce découpage en tranches du réseau. Je dois donc, ce qui a été fait au niveau des instances, je dois aussi authentifier toutes les entités impliquées. Et il faut que je sois sûr que je parle effectivement à la bonne entité dans la tranche. En ce qui concerne la non-répudiation, non-rejet, je dois effectivement faire une liste de toutes les actions qui ont lieu dans mon réseau. Ensuite, le partage des ressources, ça c'est très intéressant. Certaines des ressources ici dans l'infrastructure peuvent avoir différents niveaux de sécurité. Comment je vais les distinguer? Et l'isolement ou l'insolation inter-tranche, si je m'intéresse à cette instance ici, ça va affecter tout l'isolation au niveau du réseau. Donc il faut qu'il y ait une bonne isolation. Par exemple, on peut avoir des segmentations supplémentaires dans une tranche de réseau, tranche virtuelle. Et donc, on va avoir des intra-tranches dans une des tranches. Et donc, les paramètres aussi sont importants et doivent être établis de manière correcte. En ce qui concerne le système, toutes les décisions doivent être prises en temps, de manière rapide. Et finalement, il s'agit aussi de surveiller, de monitorer la sécurité, qui n'est pas seulement pour détecter qu'il y a une faute, un échec, mais je dois être aussi capable de prédire des manières de faire en sorte que cela arrive. Donc, c'est vraiment une opportunité pour que l'intelligence artificielle ici, pour nous aider à sécuriser ces tranches virtuelles de réseau. On a déjà déployé certaines solutions pour la classification de trafic des adresses IP, aussi pour le système de détection d'intrusants ou pour la détection de spam. On a déjà trouvé des solutions à ce niveau-là. Et donc, l'intelligence artificielle basique, telle que le comportement contrôlé, cette approche pourrait nous permettre de répondre à certains des défis qui sont mentionnés ici et que j'ai mentionnés précédemment. Donc, d'une certaine manière, ce sera une manière d'autoriser ou de dénier l'accès à certains trafics, mais des fois, il n'y a pas, ce n'est pas seulement une question qui concerne le trafic, des fois aussi, bien sûr, des zones grises, hein, ce n'est pas juste noir et blanc, et de manière à avoir une intelligence artificielle complète, il faut avoir des approches vraiment intégrales, complète pour voir ce qui se passe dans tout le système. Et donc, il y a des solutions que nous aimerions incorporer. Ces approches, par exemple, pour le 5G PPP SafeNet, ce projet-là, le 5G PPP SliceNet ou le projet ETSI, Industry Specification Group. Donc, pour tous ces cas d'usage, nous aimerions utiliser l'intelligence artificielle dans ces écosystèmes. Donc, il y a des distanciations qui sont utilisées pour l'Internet des objets, des instanciations pour des fonctions virtuelles. Et ces fonctions sont vraiment nécessaires pour l'auto-automisation, l'auto-remédiation ou l'auto le fait d'apporter des réponses propres de manière autonome au système. Donc, pour ce projet, il y a une intelligence de réseau et aussi une gestion cognitive. Vous voyez, il y a aussi, bien sûr, des boucles de contrôle. Vous pouvez voir dans le réseau et les comparer, bien sûr, aux différentes politiques qui sont dans le système pour vérifier que tout marche bien. On peut réaliser donc différents tests et corriger si nécessaire. Et donc, ces approches fournissent une valeur ajoutée pour les utilisateurs de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez eu le café, la probabilité que vous avez eu le café, vous n'avez pas encore eu le café, est assez faible. Maintenant, vous n'avez pas eu de café, vous n'êtes encore peut-être pas assez réveillé. Donc, voici les... Ah, zut, je reviens à ma slide précédente. Donc, ici, l'intelligence artificielle peut être utilisée, par exemple, dans le cas d'attaques par saturation de données de service, il y a aussi des contre-mesures pour éviter cela. Et certains types d'attaques sont détectés. S'il y a un trafic suspicieux, enfin, qui est potentiellement malveillant, on va arrêter le trafic. Aussi, l'authentification des entités. Donc, ça, c'est vraiment un défi très intéressant parce que l'hypothèse est que l'attaque a la possession d'un des réseaux. Donc, grâce à cette analyse, on peut trouver des manières de dire bah, cette entité se comporte d'une manière vraiment étrange, son comportement est étrange, non habituel, et je peux donc arrêter les interactions qui ont lieu entre ces entités et le réseau en ce qui concerne la répudiation, le rejet. On peut effectivement arrêter le trafic suivant nos besoins. Même pour ces, il y a d'autres, les chaînes de blocs dans la littérature nous disent que l'intelligence artificielle peut être intéressante dans ces cas. En ce qui concerne l'isolation et la paramétrisation, il s'agit donc de l'arbitration du trafic. Et il y a des réseaux neuronaux. Grâce à des réseaux neuronaux, je peux cartographier les besoins en sécurité pour mes clients et trouver des manières de traduire ces besoins en configuration réseau. Et donc ensuite, la gestion de l'écosystème pour laquelle j'ai besoin d'une réponse rapide. Donc, je dois appliquer des filtres avant de donner des données à mon domaine. Et en ce qui concerne la surveillance de la sécurité, il s'agit ici de réaliser qu'il n'y ait pas d'arrêt de l'opération. L'arrêt des opérations, bien sûr, le fait que le système est off, c'est critique. Et ça, on va essayer de l'éviter. Bien sûr, si on a une fuite, on va essayer d'éviter ce genre de situation. Donc, les différentes applications de ces techniques posent quelques défis, bien sûr, en ce qui concerne la collection des données. Donc, quelles sont les bonnes données dont j'ai besoin pour alimenter mon modèle? Et l'approche actuelle est de capturer tout et ensuite de l'emmagasiner. Et ça ensuite sera utilisé contre vous à un certain moment donné. Et ça, ça pose un problème avec l'information identifiant personnelle. Donc, il y a des problèmes en ce qui concerne la protection de la vie privée. La collecte des données actives, les données sont collectées partout en temps réel, du cœur à la fin. Et donc, bien sûr, il peut y avoir des pénalités sur le trafic. Le trafic sur les liens va être congestionné. Donc, effectivement, il y a des compromis qui doivent être trouvés sur ces collectes de données. D'autres défis concernent les modèles de comportement acceptables de manière à cartographier le comportement acceptable. Ils font donc former mon modèle, ça prend du temps. Qu'est-ce qui va se passer si mon client, pour des raisons, change son comportement ou change son cas d'utilisation, mais son comportement va changer. Donc, la formation, l'apprentissage du modèle doit être réalisé. Le modèle doit faire un apprentissage. Donc, il faut avoir une stratégie plus rapide pour réaliser cela. Ensuite, le comportement de la boîte noire, certains clients veulent déployer des modèles d'intelligence artificielle parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle, bien sûr, du réseau. Et nous voulons montrer quelle est la raison après la décision que l'algorithme a fait. Ensuite, la précision de la connaissance, l'apprentissage des données doit être précis, valide et de confiance. Je ne vais pas vous indiquer qui fournit la certification qui dit on va utiliser des données hétérogènes pour alimenter, pour que le modèle fasse son apprentissage, parce que des biais qui existent, c'est que les données ne sont pas assez représentatives, ne sont pas assez hétérogènes pour représenter tous les cas d'utilisation. Ça, c'est un autre défi. Maintenant, l'intelligence décentralisée et distribuée, on veut que l'intelligence soit centralisée dans une unité centrale. Et il faudra peut-être la décentraliser. Et ça, ce sera un compromis auquel il faudra considérer. Et de manière à conclure, j'aimerais dire que le network slicing, le découpage en tranches virtuelles de réseau, permet d'avoir de meilleurs services pour les réseaux de 5G. D'un point de service, ce serait une ambitieux de faire ces découpages virtuels de réseau avec des fonctions de sécurité qui peuvent être déployées instantanément lorsque cela est nécessaire. On doit aussi utiliser l'intelligence artificielle et techniques de machine learning qui vont nous aider. À ce moment, il n'y a pas de centre opérationnel de sécurité qui font ça. Il y a avec assez de capacité pour résoudre les problèmes que nous allons expérimenter plus tard dans le futur. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des problématiques, il faut aussi prévoir les problématiques de manière à ce qu'elles ne se réalisent pas à nouveau. Et il faut aussi ouvrir la boîte noire pour construire la confiance de nos systèmes. Et il faut aussi réfléchir. Je crois que l'Internet est un très beau système. Et la beauté de l'Internet, c'est que ça fournit une grande quantité de connaissances pour tout le monde. Et cette connaissance est faite pour des bonnes personnes et des mauvaises personnes, d'accord? Et bien sûr, l'intelligence artificielle a des conséquences, bien sûr, dans le cerveau humain. Les êtres humains doivent décider qui peut bénéficier de cela. Donc, pour l'instant, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, qui cassent nos systèmes, qui volent nos données, qui volent la propriété intellectuelle, qui ne respectent pas la propriété intellectuelle. Donc, il faut vraiment réfléchir à cela. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour de bonnes raisons, pour le bien de l'humanité et non pas pour son mal. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être qu'il y a des questions.
Donc là, comme hier, on a convenu, les questions pouvaient être en français. Donc la parole est à la salle.
Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. On parle beaucoup de la 5G pour tout ce qui est véhicule autonome. Est-ce que vous avez regardé les impacts, les risques puisqu'on va avoir du machine to machine en communication 5G.
Yes,
Est-ce que vous pouvez répéter la question?
La 5G est très évoquée dans le cas des véhicules autonomes. Dans ce cadre-là, on est sur de la communication machine to machine. Est-ce que vous avez regardé ce domaine et les problématiques spécifiques qui se poseraient?
Non.
Non, actuellement, pour l'instant, dans mon travail de recherche, l'idée, c'était de cartographier les interactions que je vais avoir en ce qui concerne la sécurité. Mais actuellement, il n'y a pas de cas d'utilisation en particulier entre les voitures autonomes. Donc, mais l'idée, j'aimerais... regarder ces différents cas d'usage pour un cas effectivement concret pour montrer effectivement la faisabilité de cette approche. Mais actuellement, dans ce cas spécifique, sur cette problématique n'a pas été considérée pour les voitures autonomes. Non.
Ici en bas, là, au milieu.
Bonjour. Un des problèmes du machine learning, c'est avoir des données pertinentes. Aujourd'hui, il n'y a pas, au moins à ma connaissance, de vrai trafic 5G. Et je ne sais pas s'il y a des attaques contre de la 5G. Donc, sur quelles données est-ce que vous travaillez?
Donc, la recherche... C'est vraiment une étape très précoce. Donc, on essaie d'avoir une vision globale de ce que sera l'utilisation donc des utilisateurs dans la communication 5G. Donc, on fait l'apprentissage des données. Donc, pour l'instant, donc les données d'un réseau 5G n'est pas disponible. Donc, on va commencer à explorer ces problématiques, ces scénarios et répondre à ces différents défis.
Thanks for the presentation.
Merci beaucoup pour la présentation. Quelle est la granularité de la tranche de raison? La probabilité? La granularité donc des tranches virtuelles de réseau. La granularité des tranches virtuelles de réseau peut-être dépend des cas d'usage. Ça dépend également de ce que seront les fonctions majeures que vous voulez réaliser. Donc, par exemple, vous pouvez penser à diviser en tranches de réseau par rapport à différents cas d'usage. Vous pouvez réaliser, par exemple, donc des pare-feux. Et utiliser différents pare-feux qui sont déployés dans un réseau. Et ce pare-feu peut être spécialisé plus avant, donc vous pouvez avoir des spécifications pour différentes fonctions qui peuvent être changées ensemble pour construire cette grosse capacité de pare-feu. Donc ça dépend du cas d'usage, ça dépend de ce que vous voulez réaliser, ça dépend aussi de l'architecture et du service que vous voulez fournir.
Au premier rang, deuxième rang, pardon, en bas à la gauche.
In English.
You can remove the headphone, yeah. So, in fact.
Donc, en fait, on nous a donné un panorama de ce que peut être réalisé dans le domaine de la 5G pour améliorer la sécurité. Mais. Avez-vous des exemples de travail qui ont été réalisés dans un domaine spécifique qui a amélioré, qui a prouvé que grâce à l'intelligence artificielle, on peut donc bien gérer la sécurité dans certains domaines, parce qu'on était donné, donc on nous a donné une liste ici, donc effectivement partout l'intelligence artificielle pourrait apporter des réponses dans le futur. Mais avez-vous des exemples concrets de domaines dans lesquels on croit vraiment qu'on peut fournir des solutions pour gérer la sécurité 5G? C'est intéressant parce qu'effectivement, pour l'instant, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est certains des projets pour le consortium 5G PPP, mais ces projets sont réalisés actuellement et on voudrait être appliqué pour ce type de scénario pour gérer différentes politiques, pour réaliser des fonctions de sécurité et des instanciations. Donc, c'est la vision que l'on veut avoir. On voudrait que cela se passe. Et donc, les précurseurs ont certains livrables pour montrer donc l'avance des travaux. Donc, tout d'abord, on s'est intéressé aux différents cas d'usage, ensuite fournir la vision, l'architecture, les composants, et ensuite ils vont réaliser ceci pour montrer la faisabilité des choses. Et ceci est pourquoi ils voudraient montrer, effectivement, regardez, ben, ça marche. Et ceci est fait, ça donne une preuve de concept, hein, une preuve de faisabilité. Et donc c'est la vision que nous avons, et voici ce qu'on aimerait réaliser, ce qui doit être réalisé. Time for...
Je ne vois pas de main qui se lève. Très bien, ben nous allons remercier Louis. Merci beaucoup.
Thank you very much.